Bonsoir à toutes et à tous. C'est vendredi, c'est le Club des Idées du Grain. Ce soir et à la fin, c'est le président qui tranche. Le gouvernement et la majorité l'ont échappé belle en lançant le grand débat national pour répondre à la crise des Gilets jaunes. Ils prenaient un risque, celui de voir les participants exiger un changement radical de politique. Quelle chance, les Français adhèrent au grand choix de l'exécutif depuis le début du quinquennat. En tout cas, en croire la restitution telle que présentée en début de semaine par le Premier ministre Édouard Philippe. Alors évidemment, la réalité est plus complexe. Un sondage Odoxa pour France Info et Le Figaro, publié hier, faisait un autre constat, pas forcément plus scientifique que le premier d'ailleurs. Près de 7 Français sur 10 seraient insatisfaits de la restitution du grand débat par le Premier ministre. Il faut tout de même noter que c'est la même proportion qui disait ne rien en attendre il y a quelques semaines. Dans quelques jours, le chef de l'État annoncera les décisions qui découlent selon lui de cette vaste consultation. Il y a donc fort à parier que ces décisions n'entreront pas en contradiction avec le cap défini il y a 2 ans. Alors est-ce qu'à la fin, c'est toujours le président qui tranche ? Eh bien, c'est la discussion que nous allons mener ce soir jusqu'à 19h en compagnie de 2 des membres de notre club. Laurent Bigorne, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le directeur de l'Institut Montaigne. Sylvain Bourmeau, bonsoir.
Bonsoir.
La suite dans les idées, c'est sur France Culture chaque samedi à 12h45. Et vous dirigez par ailleurs le site AOC. Et puis l'invité du club cette semaine, c'est Anne Levade. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeure de droit public à l'Université Paris-Est Créteil, présidente de l'Association française de droit constitutionnel. Alors nous allons nous interroger donc ce soir sur la façon dont les conclusions de ce grand débat vont être mises en musique. Quelles décisions, non pas pour vous demander quelles seront sur le fond les décisions qui seront prises, on ne le saura que d'ici quelques jours, mais plutôt sur les modalités de la prise de décision et comment justement ce grand débat s'est inscrit dans le cadre institutionnel de la Ve République. Mais je voudrais d'abord avoir votre avis, Anne Levade, sur ce grand débat. Est-ce que vous diriez que ça aura été un moment marquant de la vie politique française sous la Ve?
Alors, je dirais que c'est forcément un moment marquant parce que c'est totalement inédit. L'avenir dira si c'est un exercice qui peut être renouvelé, mais le fait est que à la fois l'annonce du grand débat a pris un peu tout le monde de court. Ça a permis, malgré tout, de montrer qu'il y avait une réponse de l'exécutif à la situation des Gilets jaunes. Et puis, c'était quelque chose de totalement expérimental. Alors, avec les défauts de l'expérimentation, sans doute, notamment le fait que ça a été monté dans l'urgence, qu'on a mis en place un collège des garants, j'allais dire presque après que le train était lancé, le train du grand débat, et puis que comme bien sûr chacun attendait de voir ce qu'il allait en ressortir, on a aussi des conclusions qui sont sorties très rapidement finalement après la clôture de ce grand débat, ce qui explique sans doute aussi, alors non pas tant le sondage que vous expliquez, mais que on voit poindre d'ores et déjà quelques critiques, quelques interrogations, notamment sur le fait qu'il y a une partie numérique qui finalement est assez facile à traiter, même si vraiment, vraisemblablement, c'est du traitement par intelligence artificielle, donc on peut en discuter. Mais il y a du papier aussi, et que ce papier, notamment, personne ne peut garantir qu'il ait été traité intégralement dans les quelques jours entre la clôture et la phase de restitution.
Et manifestement, effectivement, toutes les contributions n'ont pas encore été traitées. Et Laurent Bigorne, est-ce qu'on a assisté à un grand moment de démocratie, un grand moment démocratique de la Ve?
Je pense qu'on a d'abord été beaucoup regardé de l'étranger. Dans un premier temps, sous un angle très dubitatif et même un peu inquiet compte tenu de l'agitation qui s'est déployée dans les rues françaises depuis une vingtaine de samedis. Et puis la presse internationale était un peu plus positive sur ce grand débat qui est un objet politique non identifié. Je parle pas d'objet institutionnel à ce stade, hein. Je parle bien d'objet politique, y compris parce qu'il y a quand même plusieurs grandes démocraties qui nous regardent en disant « tout ça peut nous arriver ». Où tout ça risque de nous arriver à un moment ou un autre. Vous voyez, je suis pas sûr que la stratégie du grand débat serait à conseiller aux Britanniques en ce moment. Encore que si ça a pour vertu de ramener la paix civile, ça peut avoir quelque utilité. Pour redevenir plus sérieux, c'est maintenant qu'on va voir si on passe de l'objet politique à une transformation ou si on en fait autre chose qu'un moment qui a permis de calmer, de cautériser. Une opinion qui était véritablement en effervescence et prêt à suivre des options assez radicales, si j'en crois les sondages. Et c'est maintenant qu'on va le voir ou pas.
Vous y avez vu, Sylvain Bourmeau, les mêmes effets de cautérisation dans ce grand débat?
Non, j'ai vu l'effet d'une réponse politique à une situation, parce que c'est d'abord, avant tout, de ça dont il s'agit. C'est pas comme si le gouvernement et le président de la République, l'exécutif, avaient, de leur initiative, décidé d'ouvrir un moment participatif dans ce mandat. C'est bien en réaction à une situation pour le moins inédite, qui est celle de cette mobilisation qui ressemblait à aucune autre jusque-là, à la fois les ronds-points et puis les samedis, et qui a mis le gouvernement dans cette situation quand même de assez préoccupante et de devoir répondre vite. Donc voilà, c'est un des éléments de réponse, l'autre ayant été la politique publique de maintien de l'ordre du gouvernement, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Donc c'est un élément de réponse. Moi, j'y vois pas, je suis pas aussi positif que les deux intervenants précédents, dans la mesure où j'y vois d'abord et avant tout un élément de réponse de nature de communication. En fait, tout s'est joué dans le fait pour le gouvernement, après avoir un moment d'abord confié la chose à l'institution qui est chargée de ce type de choses dans notre pays, la Commission nationale du débat public, décider d'aller finalement de s'en priver. Et là, je dois dire que la présidente de cette Commission nationale du débat public a fait preuve d'une responsabilité très, 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 très grande, Chantal Jouanneau, et je trouve remarquable le rôle politique qu'elle a joué, enfin, garante de son institution, un peu comme Jacques Toubon, défenseur des droits, peut aussi se comporter, là, sur le volet de la politique publique de maintien de l'ordre. Ces deux Chiraciens, d'ailleurs, c'est assez étonnant, qui ont été là pour garder nos libertés publiques et nos institutions. Et donc, en face de ça, on a une opération de communication qui a visé d'abord et avant tout à donner l'occasion au président de la République de passer des heures et des heures sur des chaînes d'information continue lors de ses prises de parole. Donc,
ce qui ressemblait à
tout sauf un débat tel qu'il est organisé. Il y en a souvent organisé dans notre pays par cette Commission nationale du débat public ou par d'autres instances. Donc, non, mais pour relativiser les choses, moi j'ai lu un article très intéressant, qui remet un peu en perspective tout ça dans Le Monde, ce travail produit par les décodeurs sur la réalité de ces contributions. En gros, 250 000 contributions sur le web, c'est deux fois plus simplement que l'enquête en ligne qui avait été lancée il y a quelque temps, qui s'appelle « Ma télévision publique ».
Alors c'est plus ça. Pardonnez-moi Sylvain Bourbeau, mais alors ce qui est affiché en tout cas,
mais si on lit l'article des décodeurs, on s'aperçoit qu'en fait le chiffre donné par le gouvernement est deux fois plus important que la réalité, parce qu'il y a énormément de doublons. Ils ont fait un travail très méticuleux.
Certains des doublons,
dans le
cas,
monde,
voilà, c'est qui permet d'arriver 2 millions de contributions en ligne,
qui permet d'arriver à 250 000. Or le débat sur la télévision publique, qui est un sujet important, mais enfin on en conviendra, moins important que l'ensemble des sujets qui étaient à l'ordre du jour de ce grand débat national, avait mobilisé la moitié des gens. Donc, vous voyez, faut peut-être... je ne crois pas que ce soit... C'est peut-être historique au sens où ça ne s'est jamais fait avant, mais ce n'est certainement pas historique au sens où ça aurait mobilisé une partie importante de la population française.
Anne Levade ?
J'avais pas le sentiment d'avoir été aussi enthousiaste que ça à l'égard du grand débat, donc je tempère ou reprends mes propos. Non, je dis c'était un pari. Je crois qu'en janvier, effectivement, quand le grand débat est lancé, c'est à un moment où plus personne n'a l'air de savoir comment on peut sortir de cette situation. Et donc, il y a un pari démocratique, en tout cas, il est présenté comme tel, qui est fait. Effectivement, c'est regardé de l'étranger. C'est regardé aussi, quand même, depuis la France. Parce que malgré tout, il y a bien une quinzaine de jours pendant lesquels tout le monde se demande quelle forme ça peut prendre, à quoi ça peut aboutir, etc. Je crois effectivement que ça a cette vertu possible, mais je m'inscris toujours une réflexion sur le temps long. Ça a cette vertu possible de pouvoir effectivement donner des éléments de délibération supplémentaires qui sont de nature à répondre à ce qu'on a entendu, c'est-à-dire nous ne sommes pas représentés, nous ne sommes pas entendus, mais de mon point de vue, ça ne remplacera jamais effectivement la prise de décision en tant que.
Mais justement, Anne Levade, sur ces éléments de délibération, Laurent Bigorne disait tout à l'heure, la réponse était une réponse politique, pas forcément institutionnelle. Est-ce que, en tout cas, le fait que ce type de réponse, donc le grand débat, ait été imaginé dans le cadre de cette crise importante, crise économique et sociale, qui est la crise des Gilets jaunes, ça ne reflétait pas justement une crise institutionnelle, c'est-à-dire que des institutions qui n'étaient plus en mesure d'assurer cette délibération et qui ont conduit à imaginer une autre forme que celles qui sont plus classiques, disons.
Alors, moi je ne le crois pas pour deux raisons. La première raison, c'est que, pour finir... on en reviendra aux institutions. J'ai bien compris que le thème, c'était pour finir, c'est le président qui décide, mais pas forcément juste le président, parce que pour finir, pour voter une loi, on va revenir, s'il y a des lois qui suivent ce grand débat, on va revenir aux procédures qui sont prévues par la Constitution, donc soit le Parlement, soit le cas échéant un référendum, mais quoi qu'il arrive, à une solution institutionnelle, parce que c'est normal, sain, rassurant, dans un état de droit, que la règle du jeu pour adopter les décisions soit celle prévue par la Constitution. La deuxième chose, c'est que on a en France la passion de la révision constitutionnelle. On a la passion de la Constitution, de la politique aussi par ailleurs. Mais réviser la Constitution et donc modifier nos institutions ne permettra pas, ça j'en ai l'intime conviction, de répondre à ce sentiment de malaise et de défiance à l'égard des politiques. Je crois que ce serait un leurre d'imaginer qu'il suffit d'inventer une nouvelle procédure pour que d'un seul coup les Français disent « Ah, c'est formidable, comme les parlementaires nous représentent bien, tout a changé, enfin nous sommes entendus ».
Donc imaginez par exemple que régulièrement il y ait un grand débat national sur des questions assez larges et qu'il soit un rendez-vous qui soit institutionnalisé, ça c'est pas forcément envisageable pour vous.
Il y a une autre difficulté, même les États qui pratiquent la démocratie directe, on a beaucoup parlé de la Suisse ou d'autres États dans ces dernières semaines, même ces États-là sont conscients qu'il peut y avoir un phénomène, j'allais dire, de fatigue démocratique. C'est-à-dire que les citoyens, ils ont une vie. Ils ont un métier, ils ont une famille, ils veulent prendre des vacances. Et donc, chacun d'entre nous, chaque matin, ne va pas se lever une demi-heure plus tôt pour faire son travail de citoyen actif. Alors, bien sûr, on peut dire, mais si, on va tous le faire. Mais je vous garantis qu'au bout de 6 mois ou d'un an, il va y avoir un effet d'effritement et qu'on va retomber dans les mêmes débats qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire, mais finalement, est-ce que c'est 2 millions de contributions ou est-ce que c'est pas 250 000 contributeurs et quelle est la représentativité, etc. Donc, je crois que le débat, le grand débat national, ça ne peut être qu'un exercice ponctuel et... En plus, pour l'instant, personne ne sait ce qu'il va donner. Donc, de toute façon, ça n'est à renouveler que si il s'avérait que ça produit des résultats.
Vous êtes d'accord, Laurent Bigorni ?
Complètement d'accord. J'aime bien la démarche du temps long. Il faut revenir, je crois, à ce qu'a été l'introduction de cette démocratie participative en France. Une des premières à avoir soulevé le thème, c'est Ségolène Royal en 2007, dans sa campagne, quand elle a créé Désir d'avenir. Je pense que par ailleurs, et je le dis très publiquement, elle a bien saccagé le thème, au sens où elle ne lui a pas donné la crédibilité, et donc pas nécessairement l'énergie que la démocratie participative aurait pu avoir. Et entre,
elle n'a pas eu l'occasion de le faire, parce qu'elle n'a pas été...
Oui, mais enfin, elle a aussi énormément instrumentalisé et tiré politiquement, hein, y compris dans sa région Poitou-Charentes, en allant chercher des figures plutôt latino-américaines, d'extrême-gauche, ce qui n'a pas donné toute la crédibilité, à mon avis, à l'instrument, un outil qui, je le crois, on a conduit à l'Institut Montaigne, notamment en 2012, est un outil utile et réel. Si on ne lui demande pas plus que ce qu'il peut faire, et si par ailleurs on prend la précaution de faire une chose que le gouvernement n'a pas pu faire, en l'occurrence dans le grand débat, c'est d'éclairer l'opinion. C'est-à-dire que si vous lui demandez de délibérer, il faut lui poser des questions, ça a été fait, mais il faut surtout songer, et on voit dans les conférences de consensus ou les conférences citoyens, à former l'opinion et à lui donner le temps, la respiration, d'éclairer la délibération, d'éclairer son jugement, non pas en étant condescendant avec elle, hein, mais en organisant le transfert d'expertise, de compétences.
Et ça, pardonnez-moi, Laurent Bigorni, c'est pas plutôt l'inverse, ce à quoi est censé servir un grand débat, c'est-à-dire éclairer les dirigeants pour prendre des décisions.
En démocratie participative, si vous faites par exemple une conférence de citoyens sur 3 week-ends, avec des citoyens tirés au sort, vous allez consacrer la quasi-totalité des 2 premiers week-ends à faire venir des experts, à organiser in fine du débat entre experts, donc des gens qui ne seront pas d'accord. Et le moment de délibération ou de rédaction d'un avis citoyen viendra en toute fin de processus. Il ne faut pas inverser l'ordre des facteurs. Et donc, je pense qu'on continue de maltraiter cet outil. Sylvain avait l'air de dire que tout à l'heure, j'avais apprécié énormément cette séquence. Moi, j'apprécie qu'il y ait moins d'agitation dans la rue et qu'on ait réussi à décrocher les Français raisonnables de ceux qui veulent se livrer à toute forme de tentative insurrectionnelle ou autre. Mais je ne pense pas qu'on soit rendu. C'est-à-dire qu'à mon avis, on est encore très très loin de l'utilisation optimale. Ensuite, j'entends de plus en plus, à l'Assemblée nationale ou des présidents de région, s'intéresser très sérieusement à des travaux qu'ils ne regardaient pas et qu'ils ne considéraient pas il y a encore quelques mois comme ceux d'un universitaire comme Loïc Blondiaux. On ne peut pas me soupçonner d'être proche de Loïc Blondiaux, et pourtant je pense que ce qu'il a produit, ce que je l'ai vu faire, est extraordinairement intéressant.
Est-ce qu'il n'y a pas eu peut-être, du coup, Sylvain Bourmeau, un problème dans la médiatisation de ce grand débat où on s'est peut-être trop focalisé sur les interventions qui certes étaient nombreuses et spectaculaires d'Emmanuel Macron au détriment des véritables débats, de véritables délibérations qui ont pu avoir lieu, même si alors elles ont été moins nombreuses, comme vous le disiez tout à l'heure, que ce qui peut être affiché, mais elles ont quand même eu lieu. Il y a quand même eu des débats localement.
Mais
il y a
pourquoi,
eu des contributions en ligne.
Pourquoi on s'est focalisé là-dessus ? Parce que c'était l'objectif. C'était l'objectif politique. Il s'agit bien d'une stratégie politique. C'était mettre en scène le président de la République. D'ailleurs, on a vu à quel point il aimait se trouver dans cette situation. Le débat avec les intellectuels étant probablement le paroxysme de ce moment. Mais ça, on a battu des records à chaque fois avec le nombre d'heures, etc. Bon. Donc... Loïc Blondiaux, qui connaît bien ces questions de démocratie participative depuis longtemps, et qui d'ailleurs avait porté un jugement très positif sur l'expérience en Poitou-Charentes de Ségolène Royal, qui ne pensait pas du tout que c'était de l'ordre du gadget, apporte un jugement plus que nuancé sur cette expérience. Et je dirais même qu'il est en train de revenir peut-être un peu, c'est une discussion qu'on a depuis longtemps ensemble, sur cet enthousiasme qui est le sien pour la démocratie participative. Parce que moi, j'y vois plutôt... au fond, le symptôme, un nouveau symptôme de la crise de la représentation dans laquelle nous sommes. Au fond, ce qui se passe depuis maintenant longtemps, c'est qu'on sent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la délégation, dans la représentation politique, qui est liée à la manière dont la politique professionnelle a évolué, elle s'est coupée d'un certain nombre de citoyens. Et donc, la démocratie participative, depuis maintenant 30 ans, a fait partie des remèdes qu'on a pu inventer. Moi, j'y vois dans beaucoup de cas, des pansements sur une jambe de bois, des manières de faire diversion pour ne pas régler véritablement les problèmes. Et là, au fond, on a à nouveau ça, c'est-à-dire qu'au fond, la priorité n'était peut-être pas d'organiser des débats participatifs, la priorité était peut-être de tenter de résoudre un certain nombre de problèmes de fond que la politique professionnelle a dans ce pays, et de voir comment refonder la démocratie représentative. On est dans une situation où on n'a plus de partis politiques dans ce pays. C'est gravissime. C'est gravissime. Moi, il faut qu'on m'explique comment on peut avoir une démocratie représentative sans partis politiques. On est dans la mode des mouvements. L'élection présidentielle au suffrage universel direct a produit ses pleins effets. Et on est maintenant dans cette mode où on a donc ces délibérations. Elle devrait avoir lieu au sein des partis, au sein des syndicats, dans les associations, d'abord et avant tout. Je pense que c'est par là qu'il faudrait commencer à reconstruire les choses. Et je pense qu'on prend les choses à l'envers. Donc ça amuse la galerie, ça amuse les médias, ça mobilise les citoyens qui sont déjà intéressés par la politique, mais ça ne commence pas par reconstruire les choses. On avait un petit peu réglé ce problème en instituant des primaires, que je trouvais une initiative très intéressante, parce que on faisait en sorte que les partis soient remplacés par des instances qui au moins faisaient que des citoyens, ceux qui étaient les plus intéressés par la politique, puissent ne pas se faire dicter par les médias le nom des candidats aux élections. Et puis, voilà, à cause d'un certain nombre d'échecs, on se retrouve dans une situation, on le voit bien avec les européennes, où c'est à nouveau les médias qui décident qui va être candidat. Le Parti Socialiste n'est même pas capable de proposer un candidat tout seul. C'est à nouveau le complexe médiatico-sondagier qui décide qui est candidat.
Puisque vous avez évoqué les primaires, je suis obligé de redonner la parole à Levade. C'est un processus que vous connaissez bien, vous, pour l'avoir, chapeauté. Et assez récemment, c'était
pour avoir organisé, oui, effectivement, la primaire de la droite et du centre,
en 2017, fin 2016.
Oui, c'est d'ailleurs un phénomène intéressant parce que, mais je pense que c'est d'une toute autre nature, parce que les primaires ont été absolument encensées pendant toute une période, à tel point que personne n'imaginait qu'il puisse ne pas y avoir de primaire. Et puis, j'ai pas besoin de vous rappeler qu'en 2017, comme aucun des candidats à la primaire a une primaire quelconque, puisque il y avait eu celle des écologistes, il y a eu celle de la gauche et il y a eu celle de la droite et du centre, comme aucun n'a été qualifié pour le deuxième tour, tout le monde a voulu immédiatement jeter aux orties la primaire en disant qu'elle était responsable de tout.
C'est un drame.
Mais Oui, ah bah bien sûr, oui. Mais je, de mon point de vue, ça n'est qu'une procédure, la primaire. Donc, en tant que telle, elle ne peut pas accomplir ce pour quoi elle n'est pas faite. Elle ne peut pas garantir que le candidat qui la gagne sera élu. Je voulais juste revenir sur quelques petites choses. Je partage tout à fait ce qu'a dit Sylvain Bromeau sur le débat national au sens où il ne peut pas être un substitut ce qui aujourd'hui dysfonctionne dans notre système. Je dis pas institutionnel, mais représentatif. Parce que je ne crois pas que ce soit les institutions le problème. Je pense que c'est une crise de la représentation. Et d'ailleurs, elle ne touche pas que la France. Dans d'autres États qui n'ont pas du tout le même système institutionnel que nous, cette crise existe. C'est-à-dire ce sentiment qu'ont les citoyens de ne pas être entendus, correctement représenté, etc. Pour autant, je pense que ce grand débat avait pour objet, je rentre pas sur la question médias et communication, c'est moins mon terrain, mais je pense qu'elle avait pour objet de renouer un dialogue. Parce que finalement, dans la représentation, il y a d'abord un dialogue entre le représenté et le représentant, donc entre les citoyens et les institutions. Et que comme ce dialogue était rompu et faute de savoir le restaurer lui-même, je crois que c'était l'idée d'inventer un autre dialogue d'une autre nature. On verra s'il portera des fruits, mais je pense que, de ce point de vue-là, je porte un regard plutôt positif sur l'idée.
Mais Anne-Van, pardonnez-moi, est-ce que ce grand débat, il n'avait pas aussi pour objet de relégitimer une politique et également ceux qui la portent? Si je vous pose la question, c'est parce que je ne sais pas si vous avez écouté la restitution qu'a fait du grand débat le Premier ministre Édouard Philippe, c'était lundi au Grand Palais, et puis la façon aussi dont on a parlé le chef du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale, Gilles Legendre, où ils expliquaient en gros que les attentes qui ressortaient de ce grand débat, les conclusions qu'ils en faisaient, finalement correspondaient tout à fait au cap qui avait été fixé depuis le début du quinquennat. Est-ce que ce n'est pas un instrument de relégitimation? Est-ce que ça ne pose pas de problème? Ou est-ce que ça ne démontre pas qu'il y a aussi besoin dans ce fonctionnement de la Ve République que d'avoir régulièrement, justement, des moments où il faut redonner, peut-être, comment dire, oui, une forme de légitimité au pouvoir?
Alors, sur le premier point, je crois d'ailleurs que c'est sur votre antenne que j'avais eu l'occasion de dire que de mon point de vue, sur le plan constitutionnel, puisque c'était de cela qu'on parlait, la pire des solutions serait justement, au terme du grand débat, de dire « bah voyez, tout était déjà prévu dans la réforme qu'on a déposée l'année dernière, donc on continue ». Donc je maintiens. Je pense que c'est une très mauvaise idée que d'expliquer qu'on avait déjà tout compris et que donc, finalement, et c'est paradoxal, le débat n'aurait servi à rien et que on a en quelque sorte court-circuité un processus qui était bien lancé. Sur maintenant la question de savoir s'il faut redonner davantage de légitimité. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un problème de respiration démocratique que rencontrent toutes les démocraties, mais qui pose la question de savoir ce qu'on attend des démocraties. Je vais tenir un discours qui peut-être vous étonnera, mais je pense que c'est d'une certaine manière, parce que nos démocraties fonctionnent depuis longtemps correctement sur un plan procédural, qu'il n'y a pas d'à-coups, qu'il n'y a pas de drame, qu'il n'y a pas de traumatisme majeur, que on se demande à quoi ça sert. C'est-à-dire que d'une certaine manière, on s'est habitué à ce fonctionnement, et comme les résultats ne sont pas là sur un certain nombre de politiques qui sont menées, et là de manière très concrète, sur effectivement le niveau de vie des Français, la pression fiscale, etc., eh bien on met en cause le système, alors qu'en réalité c'est plutôt ce qu'on fait faire au système. Et je voulais revenir, parce que de mon point de vue c'est la même question, sur cette expression moi que je déteste de démocratie participative, pas l'objet, hein, je parle de l'expression, parce que je la trouve absurde. La démocratie, quelle qu'elle soit, repose sur la participation. Démocratie représentative, elle suppose que les électeurs participent en venant voter. Donc l'idée d'une démocratie participative, en soi, j'allais dire, elle est absurde, ou en tout cas c'est un pléonasme. En revanche, je crois qu'il faut s'entendre sur ce qu'on veut faire faire à la démocratie, c'est-à-dire à l'appel aux citoyens. Est-ce que l'objectif est de les faire délibérer, c'est-à-dire de les faire débattre? Auquel cas, on présumerait que la démocratie, c'est le débat permanent, ce que je ne crois pas. L'intérêt d'un débat, c'est d'en sortir pour décider. Ou bien, est-ce que on veut faire appel aux citoyens pour leur faire prendre la décision? C'est pas du tout le même exercice. Et là où, effectivement, il y a un danger, c'est qu'à les faire trop débattre, on peut leur laisser le sentiment qu'ils vont pré-décider. Et si, par extraordinaire, on décide autrement, alors là, on retourne dans une crise majeure.
Oui, c'est vrai que c'est un peu une forme de quadrature du cercle, Laurent Bigorne. C'est-à-dire, soit les décisions qui sont prises sont dans la continuité de ce qui a été décidé depuis le début du quinquennat, et le constat sera de dire que bah, finalement ce grand débat n'a servi à rien. Mais soit les décisions réorientent totalement la politique, et auquel cas ça peut poser problème pour ceux qui ont voté pour cette majorité-là. Enfin, c'est presque insoluble finalement.
La politique, par ailleurs, est rare de manière contraire. Hein. Je pense que, si vous voulez, on a vu quelque chose dans la campagne, Sylvain a rappelé, d'assez spectaculaire. C'est-à-dire qu'on a assisté, de façon assez systémique, à l'effondrement de quelque chose. Et d'ailleurs, comme vous me rappeliez il y a un instant, le fait qu'aucun des candidats à une primaire n'ait pu accéder au deuxième tour disait suffisamment bien ce qui était devenu la faiblesse des partis politiques, qui ne sont pas seuls dans cet état d'attrition. Je pense aux syndicats et je pense même maintenant à une institution comme l'Église catholique qui est de plus en plus faible dans sa capacité à rassembler les gens. Donc il se passe quelque chose et je pense que le candidat Macron dans la campagne, à travers sa grande marche, l'adjectif grand est souvent utilisé, vous voyez, mais je pense qu'à travers sa grande marche, il y avait déjà, sans mauvais jeu de mots, une démarche qui consistait à dire j'ai un problème de légitimité, il faut aller chercher les solutions ailleurs, il faut passer à côté des corps constitués ou des corps intermédiaires et à côté des experts, ce qui n'a évidemment pas été fait. C'est par des experts, on sait bien qu'a été construit son programme. Il y avait cette dénonciation aussi, assez systématique, d'un clivage vrai ou mythifié entre le vieux et l'ancien monde. Donc il y avait bien une analyse. Et là où je donne raison au Premier ministre et à Legendre, c'est qu'en réalité, quand ils disent « on avait tout vu », oui, mais ils n'ont rien fait. C'est-à-dire que la réforme constitutionnelle, telle qu'elle a été posée, qui ne sera sans doute, à mon avis, jamais présentée au Parlement réuni en Congrès ni aux Français, on verra, je peux me tromper, mais en réalité, elle ne répond à aucune, en intensité, à aucune des difficultés face auxquelles on est aujourd'hui. Et par ailleurs,
elle va être peut-être réécrite.
Les politiques
c'est
publiques.
Pas à la faveur de, justement, de ce qui sortira de ce grand débat.
On verra. Mais en tout cas, si elle était mise en œuvre aujourd'hui, je ne vois pas ce qu'elle changerait au schmilblick. Pardon d'être très trivial. Quant aux politiques publiques, certaines ont leur efficacité, leur utilité. Je pense au dédoublement, par exemple, des classes de CP dans les régions concernées par l'éducation prioritaire. Mais enfin, on est assez loin du compte par rapport aux espoirs suscités. Et c'est un double procès aujourd'hui de légitimité et d'efficacité du régime démocratique. Mais ça ne date pas que de Macron. On voyait depuis des années les sondages sur, par exemple, le niveau de préférence par les Français, je pense notamment à des enquêtes du CEVIPOF, pour d'autres modèles que le régime démocratique, monter. Et monter dangereusement. Comme monter leur volonté, au fond, de ne pas aller voter pour certains d'entre eux, ou comme monter leur préférence pour des partis qui, délibérément, se situent en dehors du jeu démocratique. Donc tout ce qu'on analyse ce soir n'est à la fois pas nouveau, et en même temps, il faut le traiter. Alors, je ne prétends pas que c'est la démocratie, pardon pour ce pléonasme, qui va, j'allais dire, inférer une participation supérieure des citoyens, leur demander plus que d'aller voter dans certains cas, pardon, qui nous en sortira. Mais je prétends qu'il va falloir regarder ce qu'il y a dans la boîte à outils aujourd'hui pour voir comment, y compris localement, on repart sur des bases beaucoup plus saines. Or, la démocratie dont on parle, quand il s'agit d'installer un grand équipement ou de prendre des décisions d'aménagement compliquées, elle fonctionne très bien. Et les maires l'utilisent, et les présidents de communautés d'agglomération de communes l'utilisent. Donc il faut quand même voir où il y a des solutions fécondes.
Donc c'est moins un problème d'outils qu'un problème d'utilisation des outils disponibles.
D'instrumentalisation aussi.
Et Sylvain Bourbon. Et parfois ça ne marche pas. Dans AOC, on a publié cette semaine ou la semaine dernière un article de Sandrine Ruy qui travaille beaucoup sur ces questions de démocratie participative qui montrait comment, au fond, tous les procédures mises en œuvre de participation à propos de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, par exemple, on a pris beaucoup de temps, il y a eu beaucoup de choses de faites. Ça ne pouvait pas aboutir à une solution consensuelle qui.
Non, mais on ne parle pas nécessairement de consensus, mais non, en l'occurrence sur Notre-Dame-des-Landes, c'est la décision de l'exécutif, du pouvoir exécutif qui a repris la main. Qui a conduit à l'impasse et à l'arrêt du projet.
Enfin, en tous les cas,
c'est pas la démocratie dite participative
ne peut pas tout régler. Ce qui est sûr, c'est que c'est
elle ne peut pas se substituer aux politiques. Elle ne peut pas se substituer au président de la République ni au Premier ministre qui nous représente.
Comme le dit Alice Mazot et Magali Nonjon, deux autres chercheuses qui travaillent là-dessus, un marché, la démocratie participative. Aujourd'hui, un marché, il y a des tas d'entreprises qui en vivent. Moi, je voudrais revenir sur la manière, parce que je crois que ce sont deux choses différentes. C'est-à-dire que l'exercice du grand débat, c'est une chose, mais là, ce qu'on a vu ces derniers jours, c'est la réception des résultats et la customisation des résultats par le Premier ministre en particulier, qui pose quand même un grand problème. C'est-à-dire que qu'est-ce qui ressort de ce grand débat avec tous les biais dont j'ai parlé, l'enquête, c'est quand même la suppression de l'ISF, par exemple, qui pourtant a été posée comme un interdit politique, comme quelque chose sur lequel on ne reviendrait pas, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il arrive, on ne pouvait pas en parler. Mais néanmoins, c'est ce qui ressort en numéro un sur ces questions fiscales. C'est ce qui ressort de cette consultation. Donc, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que, voilà, typiquement, parce que c'est quand même pas rien, cette revendication, on sait que dans ce mouvement des Gilets jaunes, ça a été une des choses qui, au-delà de son importance pour les comptes publics, qui est minime, a pris un tour symbolique extraordinairement fort. Or, on est dans cette crise qui nécessite de lâcher un peu des choses au plan symbolique. Donc le rapport de force, il se joue notamment sur des mesures comme celle-là. Et sur ce plan, le grand débat n'aura servi à rien. À rien du tout. Puisque, de toute façon, il était écrit qu'il ne servirait à rien sur cette question. Donc, on peut même se demander s'il n'aura pas fait en sorte de jeter de l'huile sur le feu, en quelque sorte, puisqu'il aura permis néanmoins qu'on en parle, et puis il ne se passera rien.
Anne Levade, est-ce que, d'un point de vue institutionnel, pour rebondir sur ce que disait Sylvain Bourmeau par rapport à l'ISF, l'impôt sur la fortune, on pourrait imaginer que le référendum d'initiative partagée puisse être utilisé pour poser la question du retour ou pas de cet impôt ? Ou est-ce que c'est quelque chose qui ne pourrait pas être fait en l'état ?
Alors, c'est quelque chose... Je crois d'ailleurs que l'initiative avait été évoquée, me semble-t-il, par Valérie Rabault il y a quelques semaines.
Voilà, qui est une députée socialiste.
Voilà. Alors, en théorie, ça pourrait être fait, mais, pardon, je vais rentrer un tout petit peu dans la technique, j'ai quand même une petite interrogation, parce que le référendum d'initiative partagée part d'une proposition de loi. Or, une proposition de loi, c'est-à-dire un texte qui émane des parlementaires et pas du gouvernement. Or, une proposition de loi, elle connaît quelques contraintes constitutionnelles, et en particulier, on ne peut pas avoir de proposition de loi qui diminue les recettes ou qui aggrave les dépenses de l'État. Et donc je me demande si ce référendum d'initiative partagée pourrait donc être utilisé en matière fiscale, pour le dire vite. C'est-à-dire qu'en matière financière, on peut avoir une petite interrogation sur la faisabilité d'un référendum, puisque c'est nécessairement une proposition.
Alors il va peut-être être utilisé ce référendum dans le cadre de la privatisation d'aéroports de Paris. Si je vous ai posé cette question sur le référendum, c'est parce que j'ai omis de dire tout à l'heure en vous présentant Anne Levade que vous avez fait partie de la commission Balladur. C'est de cette commission qu'est née la réforme constitutionnelle, la dernière réforme constitutionnelle importante. En 2008, qui a mis en place justement ce référendum d'initiative partagée, qui n'a jamais été utilisé jusqu'à présent, qui va peut-être l'être. Il y a cette initiative des parlementaires. On verra bien si c'est quoi 4,5 millions de signatures qui doivent être réunies par rapport justement à ce que cela dit, cette initiative, si ça arrondit quelque chose, de la place justement du président de la République dans la décision politique. Est-ce qu'il faut y voir déjà peut-être une façon de contester la toute puissance qui est celle du chef de l'État dans les institutions de la cinquième ?
Alors, je pense pas que ce soit l'idée de la procédure elle-même, c'est-à-dire que cette procédure n'a pas été conçue pour pouvoir contrer en quelque sorte la position du chef de l'État. Cette procédure en 2008, elle a été imaginée, en fait elle a été reprise, si je veux être exact, d'une proposition quasiment identique qui avait été formulée en 1992. C'est vous dire si l'idée de une démocratie associant davantage les citoyens à la prise de décision est une vieille idée. En 92, François Mitterrand avait mis en place déjà un comité de révision de la Constitution, qui était le comité Vedel. Et donc le comité Vedel, à la demande, parce que je rappelle que dans les années 80-90, il y avait eu beaucoup de débats sur le référendum, sur l'élargissement du champ du référendum, et c'était d'ailleurs dans le programme de François Mitterrand, candidat à la présidentielle de 81, et en particulier cette idée que sur les grandes questions de société, comme on disait à l'époque, on pourrait organiser des référendums. Et donc François Mitterrand demande au comité Vedel d'y réfléchir, et le comité Vedel fait la proposition que reprend le comité Balladur en 2008. L'idée, en réalité, c'est de dire que il peut être légitime que montent des parlementaires et toujours pour maintenir cette idée de régime représentatif, des parlementaires et des citoyens, puisqu'il faut que les citoyens soutiennent la proposition parlementaire, que monte une réforme sur un objet précis, puisqu'on est dans le cadre du référendum prévu à l'article 11 de la Constitution, donc soit réforme économique, sociale, environnementale et services publics qui y concourent, organisation des pouvoirs publics, et puis traités internationaux. Et donc, en réalité, c'était davantage fait pour donner le cas échéant du poids à l'opposition, c'est-à-dire des parlementaires qui eux-mêmes ne s'estimeraient pas en mesure de porter un texte. Et je rappelle que le référendum n'est pas automatique dans le cadre de cette procédure, puisque en réalité, c'est un système un peu hybride, hein, soyons honnêtes, et avec des conditions qui en plus le rendent très difficile, trop difficile sans doute, puisqu'en fait l'idée est que si on a 4,5 millions de signatures de citoyens, eh bien le texte doit être inscrit à l'ordre du jour des assemblées pour que les parlementaires en discutent. Donc c'est bien l'idée qu'on force en quelque sorte les parlementaires, donc effectivement la majorité, à inscrire un texte qu'ils n'avaient pas envie d'inscrire à l'ordre du jour, donc pour en faire un débat parlementaire. Et peut-être une dernière chose sur ce que vous disiez. Au point où nous en sommes, à l'heure où nous nous parlons, nous n'en sommes pas encore au lancement du recueil des signatures, loin s'en faut, puisque il faut que dans un délai d'un mois, le Conseil constitutionnel nous dise si le recueil des signatures est organisable constitutionnellement, compte tenu de l'objet du texte et du calendrier de
voilà,
ce texte.
Voilà qui risque de doucher quelques espoirs par rapport à ce référendum d'initiative partagée, non, Sylvain Bourmeau, Laurent Bégorgne, lequel des deux? Sylvain Bourmeau d'abord, allez, on change un peu l'ordre.
Non, on va voir, on est dans une situation test, je pense que l'initiative est intéressante, les parlementaires ont joué leur rôle, on va voir ce qui se passe, mais effectivement, je partage l'avis d'Anne Lehmann là-dessus, c'est-à-dire que les conditions sont trop strictes et très difficilement atteignables, probablement.
Laurent Bégorgne.
Oui, je regardais juste avant que l'émission démarre. La pétition qu'on a appelée l'affaire du siècle sur le climat a mobilisé à date à peu près 2 200 000 signataires en France. Et celle pour revenir sur l'article 50 en Grande-Bretagne en a mobilisé 6 millions.
6 millions, alors que c'est l'affaire du siècle pour le coup pour les Britanniques.
Coup, c'est l'affaire du siècle, voire des siècles à venir pour les Britanniques. Donc on voit bien qu'il est quand même difficile d'aller chercher 4,5 millions de personnes en France, mais après tout, on verra. Non, peut-être un dernier mot sur le grand débat, parce qu'on en a beaucoup parlé dans ce qu'il dit, mais il faut aussi en parler dans ses silences. Et moi, il y a trois grands absents du grand débat qui me paraissent aussi révélateurs de la faillite des politiques. Alors c'est pas pour faire leur procès qu'on est là ce soir, mais il faut quand même les placer face à leurs responsabilités, y compris les actuelles. On ne parle pas de dépenses publiques. En tout cas, il n'y a pas de souci de la dépense publique. Le monde extérieur, la contrainte extérieure, ça n'existe pas. Et le troisième sujet, c'est que, manifestement, la France a réglé son taux de chômage au moment du grand débat parce que ça fait partie de la contrainte qui n'existe pas.
Les Gilets jaunes non plus n'en parlaient pas.
Voilà. Et je trouve quand même très, très déplaisant qu'on continue d'organiser le débat public, mais ça dit aussi la faiblesse des partis qui n'arrivent pas à structurer le débat, qui n'arrivent pas à poser des diagnostics. Y compris parce qu'ils sont pris dans des et je me comprends des rivalités de personnes mais qui peuvent devenir obsédantes. On a un mal fou à poser les bons diagnostics, donc il faut pas s'étonner de pas trouver les solutions.
Anne Levade, et ce sera la conclusion.
Difficile de conclure sur un sujet comme celui-là. Moi, il y a une chose que je retiens de ce qui a été dit, c'est effectivement la situation de crise dans laquelle nous sommes, sans doute par défaut de corps intermédiaire. Et je pense que le grand débat, avec tous les défauts qu'il a et ses quelques qualités, a aussi été, de ce point de vue-là, un aveu d'Emmanuel Macron, puisque finalement, il a ramené les maires, donc les élus des collectivités territoriales, dans son giron. Il y a quand même eu des discussions avec un certain nombre d'associations. Les syndicats se sont plaints de ne pas être assez sollicités. Et malgré tout, les partis politiques ont essayé timidement de prendre des positions. Mais ce qui a été dit est très vrai. Normalement, c'est dans ces lieux-là que se forge l'opinion, que se forgent les débats et... Je ne sais pas si nous en sortirons, mais le fait est que depuis quelques années, ils sont en train de disparaître quasiment du paysage politique et c'est sans doute assez préoccupant.
Eh bien, merci beaucoup à Anne Levade, Laurent Bégorgne et Sylvain Bourmeau d'avoir participé à cette discussion. Nous aurons évidemment d'autres occasions de revenir sur les conséquences de ce grand débat, puisque d'ici quelques jours, le chef de l'État va commencer à annoncer quelques-unes des décisions qui sont censées sortir des délibérations qui ont eu lieu ces dernières semaines. Merci à tous les trois, merci à l'équipe du Grand, Antoine Dulster, Virginie Ledoux, Antoine Tricot, Fanny Richet, Cyril Marchand, émission réalisée par Émilie Valla, j'ai quelques secondes pour vous dire que demain à la Sorbonne, c'est le nouveau Forum France Culture, l'année vue par les savoirs. Le thème demain est si tout se jouait le 26 mai. Le 26 mai sont les élections européennes. Europe, le moment de vérité. Je vous donne rendez-vous dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne à partir de 10h et jusqu'à 17h15. À 10h, c'est Emmanuel Laurentin qui entamera les débats. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 15h30 pour un débat intitulé « À qui profite l'Europe ?». Nous serons en compagnie de deux économistes, Dany Lang et Agnès Benassi-Kéré, et du secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger. Voilà, je vous dis donc à demain.